Le débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI. Aujourd'hui, place au coup d'œil des éditorialistes du continent. Quelle vision, quel point de vue, comment l'actualité marquante cette semaine a-t-elle été perçue de Dakar à Cotonou en passant par Kigali? Nous posons ces questions, nos consoeurs et confrères nous livrent leur regard. Dans la deuxième partie du débat, nous reviendrons sur ce qui pourrait être un tournant dans l'offensive israélienne à Gaza. Ce lundi, 7 humanitaires qui travaillaient l'ONG américaine World Central Kitchen ont été tués dans une frappe israélienne. Une erreur selon les autorités de Tel Aviv, réaction indignée et condamnation à travers le monde, notamment de la part de Washington. La pression internationale s'accentue sur le gouvernement israélien. Est-il sur le point de perdre le soutien de ses alliés occidentaux ? On en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, l'actualité en Afrique est marquée cette semaine par l'entrée en fonction du plus jeune président au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a raccompagné l'ancien président Macky Sall aux portes du palais présidentiel. Le vainqueur de la présidentielle dès le premier tour avec plus de 54% des voix imprime sa marque. Mais parviendra-t-il à répondre aux très grandes attentes, notamment de la jeunesse ? Le duo qu'il forme avec son mentor Ousmane Sonko, nommé premier ministre, résistera-t-il à l'éprouvant exercice du pouvoir? Enfin, nous reviendrons sur les déclarations du président français à la veille des 30e commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Emmanuel Macron estime que la France, avec ses alliés occidentaux et africains, aurait pu arrêter le génocide perpétré en 1994, mais qu'elle n'en a pas eu la volonté. Ces sujets d'actualité, on en parle de Dakar avec Madiambal Diane, fondateur du journal Le Quotidien au Sénégal, président de l'Union internationale de la presse francophone. De Cotonou, avec Cécile Goudou, journaliste à l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Enfin, nous sommes également en ligne de Kigali, avec le journaliste et analyste politique rwandais, Albert Rudatsim Bourrois. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
De Kigali.
Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine.
Je vous remercie. C'était mardi à Diamniadio, ville nouvelle près de Dakar. Bassirou Diomaye Faye est donc devenu le 5e président de la République du Sénégal. De son village reculé de Ndiaganya ou au palais présidentiel, la presse sénégalaise salue cette trajectoire qualifiée de fulgurante. Madiambal Diane à Dakar, fondateur du journal Le Quotidien, vous ne faisiez pas partie des journalistes sénégalais qui croyaient dans les chances de victoire de Bassirou Diomaye Faye. Comment avez-vous accueilli son accession au pouvoir ?
Il faut dire que c'est l'aboutissement d'un long processus démocratique et aussi un soulagement pour les électeurs sénégalais et pour la population de façon générale. Comme vous le savez, il y avait eu de grosses appréhensions quant à la tenue de l'élection présidentielle. Le mandat du président Macky Sall arrivait à échéance le 2 avril et il était, disons, sujet à caution que l'élection se tienne dans les délais constitutionnels. Souvenez-vous que la première date de l'élection du 25 février avait été reportée. Il y a eu des tumultes, des échauffourées qui ont occasionné des morts d'hommes dans certaines villes de Dakar et dans certaines régions ou dans certaines villes de province. Et le processus démocratique sénégalais a été assez malmené. Aujourd'hui, nous avons pu constater que les institutions de l'État du Sénégal ont fonctionné.
Oui, mais vous, en tant qu'éditorialiste, on peut lire tous les lundis les éditos que vous faites dans lequotidien.sn. Comment est-ce que vous avez perçu l'arrivée de ce jeune homme à la tête du Sénégal ?
Une surprise pour beaucoup de gens, mais aussi c'était une dynamique sur laquelle surfait l'opposition politique, notamment la formation PASTEF. Voyez-vous, par exemple, quand on regarde dans le rétroviseur, on voit que lors des élections locales de 2022 et des élections législatives de la même année, il y a eu un renversement de la hiérarchie politique. Il y a eu une éruption d'une vague d'ordre politique sous la férule de PASTEF, avec une coalition électorale très forte qui a pu, par exemple, avoir une présence jamais constaté à l'Assemblée nationale. Et donc, les électeurs sénégalais ont continué à voter de la même façon aux élections locales.
Oui, mais Madiambal Diane, en tant que fin observateur de la vie politique au Sénégal, vous avez vraiment été surpris par cette victoire ?
Surpris, oui, effectivement, j'avais été surpris parce que je ne pensais peut-être pas que la dynamique avec laquelle l'élection avait été approchée, avec, disons, le candidat de substitution que constituait Bassirou Diomaye Faye, mais aussi le fait qu'il avait été pendant un long moment victime d'un handicap avec sa détention, qui pouvait être des facteurs handicapants pour sa campagne, se sont révélés quelque part à l'opposé des facteurs catalyseurs d'une campagne électorale, surtout qu'ils ont bénéficié, il faut le dire, d'une situation ou de circonstances qui ont été appréciées comme étant très favorables à cette dynamique de campagne, parce que souvenez-vous, à quelques jours du démarrage de la campagne électorale, comme par enchantement, le président Macky Sall a sorti de sa casquette de loi d'amnistie pour élargir de prison Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, et cet élargissement leur a permis vraiment d'avoir le vent en poupe durant
alors,
la campagne électorale.
Cécile Goudou, journaliste à l'ORTB au Bénin, comment l'accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye a-t-elle été perçue au Bénin ?
Au Bénin, l'élection de Bassirou Diomaye Faye n'a pas été une grande surprise parce qu'on a vu quand même le moment où la surprise n'était plus au rendez-vous, c'est quand la loi d'amnistie dont il parlait tout à l'heure a été prise et on savait que les sept ténors du PASTEF seraient dehors. On savait tous que s'ils allaient y participer, ils faisaient même les quelques jours de campagne qui restaient, ils participaient à cette élection. Il y avait de fortes chances que le PASTEF remporte cette élection. Quand vous voyez des peuples qui, à un moment donné, n'en veulent plus d'un système ou veulent vraiment la fin d'un système ou d'un régime qui est là, ils sont prêts à tout pour faire passer celui qui est de l'autre côté qui se propose. Moi, je n'appellerais pas ça un vote émotif, ce serait comme minimiser ou mal apprécier le choix des Sénégalais. Mais il y a cette envie de justice faite à ceux qu'on estime être opprimés dans le jeu politique. Et les dernières décisions trop contestées prises par Macky Sall ouvraient un peu la voie du palais de la présidence aux candidats du PASTEF.
Alors très vite, le nouveau chef d'État sénégalais a donné des indications quant à la politique qu'il entend mener avec un geste fort, plus ou moins entendu par les observateurs de la vie politique au Sénégal, la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Albert Oudatsim Bourouat, le président qui nomme en tant que chef de gouvernement l'homme que certains perçoivent comme étant son mentor, n'est-ce pas un choix audacieux ?
Eh bien justement, de voir qu'en fait, il y a dans cette opposition quand même, il y a eu une maturité comparée aux élections précédentes. Ça veut dire que même si le premier tombe, il y a un second, c'est celui qui est là aujourd'hui. Et donc, en résumé, en raccourci, à voir que cette équipe maintenant se met ensemble, un est président et l'autre en devient le premier ministre. Donc cette opposition qui s'était opposée à l'établissement qui était là, maintenant prend les choses en main de cette façon-là. Moi, je crois que c'est un bon signe. Et en plus que tout ça se passe en toute paix, en sécurité, tout ça, c'est vraiment quelque chose de alors, très intéressant. Et le Sénégal est vraiment à être observé pour l'instant dans les moments qui suivent.
Alors, certains analystes politiques sénégalais estiment que le président a comme Premier ministre son propre patron. Partagez-vous cette analyse, Madiambal Diagne, à Dakar ?
C'est la réalité. Ousmane Sonko, c'est le leader du parti PASTEF. Bassirou Diomaye Faye était son numéro 2. Ils exercent le pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye comme le numéro 1 aujourd'hui, Ousmane Sonko le numéro 2. Tout dépendra de l'intelligence dont ils feront l'un et l'autre dans la collaboration au plus haut niveau de l'État. Il y a eu des expériences heureuses de collaboration comme cela, comme aussi il y a eu des expériences malheureuses. On verra et on pourra juger sur les faits. Toujours est-il que c'est une nomination qui était attendue, effectivement. Le peuple de PASTEF attendait que Sonko soit aux manettes en même temps que Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, les rôles sont partagés. Ils vont essayer très certainement de pouvoir élaborer peut-être une politique commune et gouverner le pays dans la perspective des attentes de la population.
Cécile Goudou à Cotonou, pour vous, qui est le véritable détenteur du pouvoir au sein du duo Faye-Sonko au Sénégal ?
Le véritable détenteur du pouvoir, c'est celui pour qui les Sénégalais ont voté.
Donc c'est Bassirou Diomaye Faye.
C'est Diomaye Faye. Mais dans un tel schéma, reconnaissons s'il vous plaît que dans un tel schéma, il n'y a qu'un petit pas à franchir pour passer du duo au duel. Hein. Parce que les déboires, on sait que ce sont les déboires judiciaires de Sonko qui ont valu à Faye cette élection à la tête du Sénégal. Comme vous voyez à Djamniadio mardi dernier lors de la cérémonie d'investiture de Bassirou Diomaye Faye, quand il devait prêter serment, ce sont des applaudissements, des merci Sonko qui ont accueilli Ousmane Sonko quand il est venu sur les lieux. Et même après la prestation de serment, c'est ainsi qu'on l'a accompagné. Donc il y a ce Torah de Sonko qui est toujours là. Il y a cette ombre-là qui va rester, qui va demeurer pendant le mandat de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Et si les deux ne savent pas faire, comme je l'ai dit, s'ils ne regardent pas dans le rétroviseur, s'ils ne restent pas concentrés sur tous ces moments d'infortune qu'ils ont partagés ensemble, tout ce qu'ils ont promis à la jeunesse sénégalaise avant d'accéder au pouvoir, et que le piège du pouvoir les prend on risque d'avoir vraiment un duel qui ne sera vraiment pas du tout profitable pour le Sénégal.
Alors Cécile, vous avez évoqué le programme, justement, parlons-en, hein, les orientations politiques nationales et internationales du nouveau pouvoir sénégalais. Après le discours à la nation prononcé ce mercredi par le président sénégalais, on peut dire que l'accent sera mis sur la rupture et le souverainisme. L'ère des ruptures, c'est d'ailleurs un des titres paru cette semaine sur le site quotidien.sn. Albert Oudatsim Bourroua, le nouveau président, promet des changements systémiques, mais en a-t-il les moyens ?
Même si on peut avoir des inquiétudes, etc., qui, entre Sonko et l'actuel président et tout ça, mais moi j'apprécie surtout l'intelligence de comment l'opposition a mené, en sachant que ce que le pouvoir et l'établissement en place mettraient comme bâton sur la route et les empêcher d'arriver là. Or, ils ont réussi le pari, même si Sonko a dû passer le bâton à son numéro 2. Je crois qu'ils ont intellectuellement tout à fait au-dessus de la mêlée. On va voir comment ça va se passer, mais personnellement, j'ai une bonne impression de cette nouvelle équipe et beaucoup d'espoir pour le Sénégal.
Alors, Madiamba, renégocier les contrats des mines, des hydrocarbures, des accords de pêche avec les pays étrangers, c'est des projets annoncés par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, notamment lors de son discours à la Nation. Est-ce que vous pensez que c'est les priorités auxquelles doit s'attaquer le président sénégalais ?
Oui, toutes les priorités au Sénégal, notamment ces questions de ressources minières. Maintenant, quelle sera la marge de manœuvre dont disposera le nouveau président ? Toujours est-il qu'il y a des engagements internationaux auxquels il faudra se conformer. On sait par le passé...
Justement, parlant de ces engagements internationaux, est-ce que les contrats, les renégociations pourront se faire aussi facilement ou est-ce que ça va être une longue bataille ?
Par le passé, on a eu des situations assez fâcheuses au Sénégal. Quand le président Wade était arrivé au pouvoir en 2000, il avait remis en cause des engagements dans le secteur de l'électricité et le Sénégal a été obligé de casquer beaucoup d'argent pour rembourser ou bien pour dédommager des investisseurs qui se sentaient spoliés. Macky Sall a connu la même situation aussi en arrivant en 2012. L'idée de renégocier des contrats commerciaux ou miniers avait été agitée et le Sénégal avait été condamné par des juridictions arbitrales à l'international et le Sénégal avait été obligé de rembourser des sommes importantes. Est-ce que cette même logique sera poursuivie par le président Bassirou Diomaye Faye ? On attend de voir quel contenu il va donner à cette notion de renégocier les contrats miniers. Toujours est-il que nous avons une expérience qui n'est pas heureuse dans ce secteur-là.
La nouvelle ère politique qui s'ouvre au pays de la Teranga, c'est à suivre sur RFI, notamment dans nos journaux, et la revue de presse Afrique avec Frédéric Couteau et Catherine Potet.
Le débat africain.
À partir de demain, le Rwanda commémorera pour la 30e fois le génocide des Tutsis le 6 avril 1994. L'avion du président Habyarimana était abattu, ainsi débutait la longue nuit rwandaise rythmée par des massacres à grande échelle. Entre 800 000 et 1 million de personnes furent tuées. Jeudi, le président français, par l'intermédiaire du Palais de l'Élysée, a estimé, je cite, que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés, mais n'en a pas eu la volonté. Des mots forts dont se réjouit l'historien Marcel Kabanda, président d'Ibuka France, une organisation qui soutient les rescapés du génocide des Tutsis.
Je suis très content que le président Emmanuel Macron soit fidèle au mouvement qu'il a déclenché depuis 2019, quand il a créé la commission d'historiens qui a étudié les responsabilités de la France et qui a conclu qu'elles étaient lourdes et accablantes. Donc là, c'est un pas de plus qu'il fait, c'est à son honneur. Et c'est à l'honneur de la France qu'il représente. Un grand pays est celui qui reconnaît effectivement ses fautes, ses erreurs, quand il y en a. Et là, je pense qu'effectivement, il va beaucoup plus loin que le rapport. C'est apaisant pour nous d'aller à la 30e commémoration avec cette déclaration. C'est un pas assez important dans la bonne direction.
Propos recueillis par Esdras Ndikumana, Albert Oudatsim Bourroua, journaliste rwandais à Kigali. Comment avez-vous accueilli les mots du président français Emmanuel Macron ?
Disons que le président Macron est quand même, après le président Sarkozy, franchement quelqu'un qui a œuvré dans ce sens-là. Ça, je suis complètement d'accord. Donc, je veux dire, aujourd'hui, de ne pas avoir, de dire qu'on n'a pas eu la volonté de l'arrêter, ok, mais parlons aussi, parce que c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est que justement, la France a fait partie de ce système. Il a soutenu à bout de bras depuis l'année 90.
C'est d'ailleurs ce que précise le rapport de la commission d'historiens dirigée par Vincent Duclerc. Madian Baldian à Dakar au Sénégal, les relations diplomatiques franco-rwandaises semblent s'être améliorées au fil des années, notamment avec les gestes du président Emmanuel Macron. Pensez-vous que les déclarations du président français sont de nature à renforcer cette relation ou alors n'est-ce toujours pas assez ?
Il y a une dynamique positive qu'il faut encourager. La France et le Rwanda ne peuvent pas cheminer en se tournant le dos. Et comme vous le dites, les gens ont réussi plus ou moins à se rabibocher depuis un certain temps. Donc, à petit pas, la France reconnaît sa responsabilité dans la commission du génocide de 1994. La France a-t-elle été coupable de laxisme, de prudence excessive, ou la France a-t-elle détourné son regard ou n'a pas voulu voir les massacres qui se déroulaient? Toujours est-il qu'il y a une responsabilité qu'il faut pointer du doigt. Je ne veux pas parler à la place des historiens, je ne veux pas parler aussi non plus à la place des politiques français qui ont voulu se laver à grande eau. Je ne veux pas non plus parler à la place des victimes rwandais qui considèrent que la France a participé à ce génocide ou l'a encouragé ou l'a peut-être ne l'a pas empêché. Toujours est-il qu'il y a un fait historique qui est là. Il faudra en tirer des leçons et des enseignements, mais il faudra voir dans quelle mesure il faut dépasser cette situation-là, aller de l'avant. Si les génocidaires entre eux ont pu se pardonner, ont pu s'embrasser aujourd'hui jusqu'à s'embrasser sur la bouche, je pense que le Rwanda peut continuer à faire la paix avec la France ou avec d'autres pays du monde qu'il a pu accuser d'avoir joué un rôle pas honorable dans la commission de ce drame de 1994.
Cécile Goudou à Cotonou, vous partagez le point de vue de Madian Baldian à Dakar ?
Pas totalement. J'estime que quand même cette déclaration, moi j'appelle ça un aveu, si on peut le dire ainsi.
Un aveu, carrément.
Écoutez, quand on dit que
en quoi est-ce un aveu
pouvait,
selon vous?
La France pouvait, je répète les mots de Emmanuel Macron, la France pouvait empêcher, mais elle n'en a pas eu la volonté. La France avoue qu'elle pouvait empêcher. Donc c'est une question.
Mais elle n'était pas seule, la France. Il y avait les alliés occidentaux, il y avait les Africains également.
Ça, c'est un autre débat. Pour l'heure, c'est Emmanuel Macron qui a pris la parole et qui s'est exprimé au nom de la France. Et la déclaration que Macron fait aujourd'hui est dans la suite logique du discours qu'il a tenu déjà en 2021 lors de sa visite à Kigali. On a vu cette volonté d'Emmanuel Macron quand même de remettre les choses à leur place et de situer les responsabilités, de reconnaître la responsabilité de la France et de ses alliés. Mais comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas totalement d'accord avec mon confrère parce que ce génocide a laissé des plaies profondes dans le cœur des Rwandais, mais il y avait cette frustration aussi engendrée par l'opération française turquoise dont on a parlé tout le temps, où on a estimé qu'on a vu des Français ne pas assister les Tutsis. Donc ça a renforcé, ça a enflé encore la frustration des Rwandais par rapport à la France. Et si la France fait ce pas aujourd'hui en reconnaissant une certaine responsabilité dans ce génocide, moi je me demande, et après, c'est la question que je me pose, est-ce qu'on va se limiter aux déclarations, faire les accolades et la vie continue, ou bien il y aura une autre responsabilité pénale peut-être à situer après?
Tout ceci est un autre sujet, Cécile Goudou, mais la 30e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda débute donc ce dimanche. Actuellement, environ 60% de la population rwandaise est née après le génocide des Tutsis. Albert Oudatsim Bourroi, comment les nouvelles générations vivent-elles avec ce lourd héritage?
Le prochain défi va être de voir aussi... Le Rwanda a dû se réconcilier d'abord entre eux, de savoir que si hier il y avait un époux qui a tué son épouse et ses enfants à cause de cette situation, cette idéologie à ce moment-là, et une épouse faire la même chose, et un cousin, un beau-frère, etc. Mais il fallait tout reconstruire. Donc il fallait pouvoir se rappeler, ne pas oublier, et de pouvoir passer au lendemain. Maintenant, avec le temps, est-ce qu'on est en train de faire des outils qui vont permettre aussi aux prochaines générations de pouvoir passer le témoin, en fait? Parce que c'est très important qu'on ne retourne pas là-dedans, qu'on sache ce qui s'est passé. Ça, je crois que c'est ça le challenge. Pour l'instant, ça s'est bien passé parce qu'il y a une certaine gouvernance dans ce sens-là, il y a une certaine conscience parce que les acteurs de l'époque sont encore vivants, mais d'ici 15 ans, ils ne seront plus.
Et au sujet de ces 30e commémorations au Rwanda, RFI vous propose une édition spéciale ce dimanche. Rendez-vous à partir de 6h10 temps universel, 8h10 heure de Paris, en compagnie de Julien Coquel-Rohem et ses invités. On va faire une courte pause dans le débat africain. Juste après le journal, nous parlerons de la situation à Gaza. Le vent serait-il en train de tourner pour le gouvernement israélien ?
Le débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans la deuxième partie du débat africain sur RFI. Ce samedi, place au regard des éditorialistes africains. Ils nous donnent leur point de vue sur ce monde en perpétuel mouvement. Nous sommes en ligne de Dakar au Sénégal avec Madian Baldiane, fondateur du journal Le Quotidien, également président de l'Union internationale de la presse francophone de Cotonou. Cécile Goudou, journaliste à l'ORTB, l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Enfin, de Kigali au Rwanda, Albert Oudatsim Bourroy, journaliste et analyste politique.
Le président Joe Biden a dit clairement qu'Israël devait annoncer et mettre en place des mesures concrètes pour répondre à la souffrance des civils, à la crise humanitaire et pour la sécurité des travailleurs humanitaires. Il a précisé que la politique américaine concernant Gaza serait déterminée par l'évaluation qu'il ferait des décisions immédiates prises par Israël. Il a souligné qu'un cessez-le-feu immédiat est essentiel pour améliorer la situation humanitaire et pour protéger les civils innocents.
John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, ce jeudi à l'issue de l'entretien téléphonique entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une discussion attendue et qui est intervenue après un énième drame dans la bande de Gaza, cible de l'opération militaire menée par l'armée israélienne depuis près de 6 mois, en riposte à l'attaque du 7 octobre, une attaque terroriste menée sur le sol israélien par le Hamas. Lundi, la mort dans des frappes israéliennes de 7 travailleurs humanitaires de l'ONG World Central Kitchen a considérablement choqué et accentué le mécontentement international.
Cet incident est une grave erreur. Israël est en guerre contre le Hamas, pas contre la population de Gaza. Nous sommes désolés pour le préjudice involontaire causé aux membres de WCK. Nous partageons la douleur de leur famille ainsi que de l'ensemble de l'organisation World Central Kitchen du fond de nos cœurs.
Mais les excuses de Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne, n'ont pas apaisé la colère des alliés d'Israël.
Le gouvernement israélien était au courant de l'action et de l'itinéraire de cette ONG sur le terrain à Gaza. Par conséquent, je trouve cela absolument inacceptable, insuffisant. Et ce que nous attendons, c'est une déclaration beaucoup plus déterminée et beaucoup plus détaillée sur ce qui s'est passé.
Nous sommes choqués et attristés d'apprendre la mort des travailleurs humanitaires à Gaza. Nous demandons à Israël d'enquêter de toute urgence sur ce qui s'est passé, car il y a manifestement des questions auxquelles il faut répondre.
La Chine s'oppose à tout acte qui blesse des civils, endommage les installations civiles et viole le droit international. Nous sommes choqués par l'attaque contre les secouristes internationaux à Gaza et nous la condamnons. Nous exprimons nos sincères condoléances aux victimes.
Les réactions du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et de son homologue britannique Rishi Sunak, suivies du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Résultat, Israël a annoncé ce vendredi qu'elle autorisait la livraison temporaire d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cécile Goudou, journaliste à l'ORTB au Bénin, pensez-vous que les alliés d'Israël, parmi lesquels se trouvent les États-Unis, ont-ils eu raison de taper aussi fort sur la table ?
Mais ils ont parfaitement raison de taper aussi fort sur la table, mais ils ont tapé un peu tardivement, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'on est à plus de 30 000 Palestiniens, dont 10 000 enfants tués depuis le début de cette guerre. Et les frappes sur le convoi humanitaire de World Central Kitchen ont fait 7 morts. Pour illustrer un peu cette hypocrisie ou bien cet attentisme de la communauté internationale face au drame que nous suivons tous à Gaza. Est-ce qu'il fallait déjà cette frappe directe sur un convoi humanitaire pour qu'on se réveille, pour se dire, bon, il faut qu'on soit un peu exigeant avec l'État hébreu? C'est vrai que ces humanitaires avaient le choix. Ils savaient que la région était risquée, mais ils ont décidé volontairement de porter assistance. Mais ces civils qui sont tués à Gaza depuis octobre, les autres n'avaient pas eu le choix, ils sont pris entre deux feux. On a vu une communauté internationale laxiste, si je peux le dire ainsi, silencieuse, bien qui a décidé de ne pas voir ce qui se passe jusque-là. La réaction disproportionnée d'Israël face à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier n'a pas été si vigoureusement condamnée jusque-là. Je suis tentée de me dire, est-ce qu'il fallait que ces ressortissants occidentaux soit tué directement comme ça pour que les uns et les autres se disent, bon, maintenant, il faut hausser le ton. Je ne veux pas comparer les morts, tous les morts se valent, mais je me dis qu'il fallait que les uns et les autres soient peut-être touchés directement pour se dire, bon, Là, il faut agir.
Alors, Cécile Goudon,
c'est un peu dommage à mon avis.
Cécile Goudon, on va revenir justement sur ce que certains estiment être un deux poids deux mesures de la part des Occidentaux en ce qui concerne la guerre à Gaza. Précisons tout de même que pour l'heure, l'administration Biden demeure évasive sur l'éventuelle rétorsion à l'égard d'Israël. Madian Baldial, fondateur du journal Le Quotidien Dakar au Sénégal, pensez-vous que la mise en garde musclée du président américain vis-à-vis du premier ministre israélien va changer l'attitude de l'armée israélienne sur le terrain?
Espérons-le. De toute façon, comme l'a dit notre consoeur du Bénin, cette mise en garde, elle est un peu tardive, après qu'on ait enregistré plus de 32 000 morts du côté de populations civiles innocentes à Gaza. Et aussi, j'entends bien les autorités américaines demander à ce qu'on accroisse l'aide humanitaire suite à cette bavure de l'armée israélienne. Ça paraît assez aberrant dans la mesure où c'est maintenant qu'on trouve la nécessité d'accroître l'aide humanitaire, alors que sur tous les temps, les populations de Gaza ont réclamé de l'aide, les organisations internationales humanitaires ont réclamé de l'aide, ont réclamé plus d'humanité, plus d'humanitaire dans le conflit, et tous ces appels-là avaient été ignorés, aussi bien par l'armée israélienne que par ses partenaires ou bien par les autorités américaines qui soutenaient ouvertement et manifestement l'armée israélienne dans son offensive contre le Hamas et qui fait des victimes collatérales très importantes au sein de la population civile. Je crois que ce drame humanitaire, parce que la bavure frappe une ONG occidentale, a peut-être permis, une catharsis ou bien un réveil de la part des autorités américaines. Peut-être c'est quelque chose absolument très bon, pourvu simplement qu'on ne s'en tienne pas simplement à des déclarations d'intention. Aujourd'hui, il y a une nécessité de prendre en compte cette préoccupation humanitaire au Gaza, mais aussi qu'on arrive à trouver une solution de cessez-le-feu durable ou définitive pour pouvoir évacuer les populations civiles, pour pouvoir aussi venir en aide à ces populations qui sont prises en étau dans un conflit dans lequel peut-être la plupart des populations civiles sont totalement étrangères.
Alors, Cécile Goudou à Cotonou, je reviens vers vous, d'après le compte rendu de l'appel téléphonique entre les dirigeants américains et israéliens. Pour la première fois, Joe Biden a évoqué la possibilité de conditionner l'aide américaine. Assistons-nous à un tournant majeur dans le conflit à Gaza, selon vous?
Pas un grand tournant, à mon avis. Une possibilité de conditionner l'aide à Israël. Je me dis que les États-Unis continuent de faire la gueule de bois. Joe Biden n'a pas été assez clair. Il n'y a pas, moi, je m'attendais à des délais par endroit sur cette mise en garde qu'il a faite à Netanyahou. Mais on sent cette timidité des États-Unis d'aller vraiment, de regarder Israël dans les yeux pour lui dire, bon, là où on va, ça ne marche plus. Conditionner déjà l'aide à l'État hébreu serait déjà un grand tournant, à mon avis. Mais quand on en est encore à une possibilité, je me dis qu'Israël va continuer à frapper. Tant que l'aide va continuer, on ne l'a pas encore stoppé, tant qu'on n'a pas dit, bon, d'ici tel moment, il faut qu'on n'ait plus telle situation, il faut que telle chose soit réglée et tout. Et on a dit, mais on attend des mesures concrètes et dans le cas où Israël ne va pas les prendre, c'est nous qui allons changer notre politique.
Madian Baldial à Dakar, comment est-ce que vous percevez l'attitude américaine qui, d'une certaine façon, condamne et conditionne, menace de conditionner son aide à Israël tout en livrant des armes à l'armée israélienne?
Cette posture a toujours été celle des États-Unis, condamnée quand il y a des bavures inacceptables ou qui choquent tout esprit doué d'humanité ou de raison, mais continuer en même temps à avoir une coopération militaire avec Israël. Je crois que ça dépasse tous les régimes américains. De tout le temps, ça a été comme ça. Toujours est-il qu'il faudrait qu'au niveau de la communauté internationale et peut-être au niveau surtout de la coopération multilatérale, que des voix plus fortes se prononcent sur le conflit. Je vois par exemple quand le président Macron s'était prononcé en faveur de plus d'humanité et plus de d'égards ou de retenue par rapport aux populations civiles. Je crois que ça a eu un écho au sein de l'opinion publique israélienne comme de l'opinion publique mondiale. Et il est important qu'au-delà des États-Unis, que d'autres puissances du monde se prononcent sur ce conflit-là et exigent de la part des États-Unis et surtout de la part de l'armée israélienne de tenir en compte cette situation dramatique que vivent les populations civiles à Gaza.
Alors, une réaction a retenu mon attention hein, ces dernières heures. Il s'agit de celle de Donald Trump. L'ex-président américain y va de son analyse, lui aussi. Selon lui, Israël est en train de perdre la guerre de la communication à Gaza. Cécile Goudou, l'analyse de Donald Trump, est-ce qu'elle colle à la réalité selon vous?
Cette image s'est dégradée. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on attendait quand même une riposte assez farouche de la part d'Israël, mais peut-être que les uns les autres n'avaient pas mesuré quelle ampleur, jusqu'où ça pouvait aller. Et avec la situation humanitaire à Gaza aujourd'hui, on ne voit même plus Israël, la plupart ne voient plus Israël dans la posture de victime, de début, tout au moins, victime de début, parce que c'est Israël qui a été attaqué. Quand vous voyez la série de réactions et tous ceux qui avaient condamné de façon vraiment... corser cette attaque du Hamas du 7 octobre, on a commencé par revoir les positions par rapport à la riposte que Israël est en train d'imposer aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et quand Donald Trump parle de perte de la guerre de communication, je suis quelque part d'accord avec lui parce que cette image n'est plus la même. Et du coup, Israël se retrouve au banc des méchants parce que peut-être les actions menées sur le terrain n'ont pas pu lui permettre ne lui ont pas permis de garder cette posture-là de celui qui a été attaqué, qui était légitimement dans ses droits de réagir.
En attendant, ce vendredi, l'armée israélienne a reconnu une série d'erreurs qui a entraîné la mort de 7 humanitaires lundi soir dans la bande de Gaza. Albert Oudatsim Bourroua, Israël promet d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza. N'est-ce pas un point positif dans cet océan de drames et de souffrances à Gaza?
Il y a certainement quelque chose de positif là-dedans, mais il faut aussi voir que ça devient très difficile pour des personnes qui ont une sympathie pour Israël. Israël aussi doit, je crois, faire un extra mile, comme on dit en anglais, de pouvoir ramener le tout un peu à un autre niveau. Je crois aussi que la communauté internationale ne peut pas avoir deux poids, deux mesures aussi. Donc.
Le débat africain.
Alors Israël hein, promet donc d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza, mais dans le même temps, les responsables du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, réaffirment la détermination d'Israël de poursuivre son offensive à Rafah. Madian Baldian, faut-il douter de la sincérité et du geste humanitaire de la part des autorités israéliennes?
Bon, ben, je pense qu'il faudrait toujours douter de la sincérité des autorités israéliennes qui aujourd'hui sont dans une logique à la limite d'extermination du Hamas, mais aussi n'est pas regardant du sort des populations civiles. Il y a trop de cruauté dans ce conflit-là. Aujourd'hui, il faut aller dans une logique d'une condamnation ferme et sans équivoque d'Israël dans sa façon de se comporter dans ce conflit-là. Comme l'a dit tantôt notre conseiller du Bénin, effectivement, il y avait peut-être un vent de sympathie ou de compréhension de la réaction d'Israël après l'attaque du 7 octobre, mais la cruauté et l'ampleur des dégâts humains et humanitaires ont fait qu'aujourd'hui, Israël passe pour être le grand méchant face au Hamas.
Alors, certaines voix s'étonnent hein, du concert de protestation, notamment de la part des alliés occidentaux d'Israël. Selon eux, il aura fallu attendre la mort d'humanitaires occidentaux, dont un Palestinien, pour que l'on assiste à cette levée de boucliers. Lequel d'entre vous partage ce point de vue?
Moi, je partage entièrement ce point de vue. Et quand on fait le bilan, on parle de près de 200 humanitaires tués depuis le début de ce conflit, mais il n'y avait pas une frappe directe comme ça sur un convoi humanitaire qui a tué à la fois 6 ressortissants occidentaux. Mais il a fallu ça pour qu'on assiste à cette vague d'indignation, de condamnation et autres. Et c'est pourquoi moi, je parle de deux poids, deux mesures. Je parle de l'hypocrisie des alliés d'Israël qui n'ont pas levé le petit doigt. Quand on voit toute la situation des civils et des enfants à Gaza depuis que Israël frappait, on n'a pas eu le. Quand je suis par exemple, le pape s'est indigné, le premier ministre de la Grande-Bretagne qui condamne, quand le premier ministre espagnol, par exemple, Pedro Sanchez, refuse même de comprendre ces arguments que Israël avance en parlant d'erreur de frappe et tout, Donald Tusk, le premier ministre polonais, estime que soutenir Israël devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a eu un Polonais, un volontaire polonais qui est mort dans cette frappe-là. Mais depuis que tout ce drame-là se produit sous nos yeux, on parle de mon confrère sénégalais l'a évoqué tout à l'heure, Madiambal a parlé de près de 32 000 morts Mais on n'a pas eu toute cette série de condamnations. Donc, il fallait que les Occidentaux soient touchés, que leurs ressortissants soient morts dans un contexte aussi déplorable pour qu'on assiste à ça. Je me dis, ça pose un problème.
Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas de la contradiction dans la réaction de l'opinion mondiale? Elle condamne la frappe contre les humanitaires, mais le même jour, il y a eu des dizaines d'autres Palestiniens tués. Il n'y a pas eu beaucoup de mots vis-à-vis de ces personnes, Albert Oudatsimbouroua.
C'est exactement ce que je disais dans mon intervention précédente. Ça veut dire que cette communauté internationale a manié toutes ces valeurs pour qu'elle met en avant avec deux poids, deux mesures. C'est ça qui est aussi un problème, parce que les premières victimes sont évidemment locales. Si cette communauté internationale ne montre pas aussi la même solidarité avec eux, c'est problématique. Tout le monde sait très bien aussi que le premier ministre actuel israélien lui-même veut que tout ça continue, parce que tant qu'il reste là à sa place de premier ministre, il n'a pas à faire face en fait à la justice en Israël.
Alors justement, vous précédez ma question, Albert. Je vous propose justement d'écouter Benny Gantz, ministre israélien, membre du cabinet de guerre et grand rival du premier ministre Benjamin Netanyahou. Cette semaine, mercredi soir, il a appelé à des élections législatives anticipées en septembre prochain. Écoutez.
L'opinion publique doit savoir que bientôt, nous lui demanderons sa confiance sans éluder les questions de la catastrophe du 7 octobre et de ce qui l'a précédé. C'est pourquoi nous devons fixer une date consensuelle pour le mois de septembre ou, si vous préférez, pour le premier anniversaire de la guerre. J'en ai parlé récemment aux responsables politiques et j'ai informé le Premier ministre, à qui je souhaite une bonne santé et un prompt rétablissement, que je poursuivrai le dialogue avec lui sur cette question. Une date consensuelle nous donnera le temps de poursuivre les efforts en matière de sécurité.
Madian Baldian à Dakar, est-ce que vous pensez qu'un tabou est tombé en Israël avec cette déclaration faite ce mercredi par Benny Gantz?
Bon, en fait, Benjamin Netanyahou était toujours dans le collimateur de la justice et de l'opinion publique, ou fait d'une bonne partie de l'opinion publique israélienne par rapport à des faits de politique intérieure. Aujourd'hui, que cette situation humanitaire dramatique le met au devant de la scène et, disons, révèle au grand monde, au grand public, les exactions de l'armée israélienne et la responsabilité des autorités politiques israéliennes. Je crois qu'effectivement, il y a une évolution sur cette perception des choses et sur la nécessité, disons, de plus de justice vis-à-vis des autorités politiques israéliennes.
Cécile Goudou à Cotonou, est-ce que vous pensez que l'actuel Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, peut se maintenir au pouvoir après le fiasco sécuritaire du 7 octobre dernier?
Je ne vends pas très cher la peau de Netanyahou à l'issue de ces élections, de ces législatives-là, mais on attend de voir ce que le peuple israélien va décider. Seulement, après tout ce tableau déjà que Madjamba l'a rappelé tout à l'heure, il faut savoir que même les Israéliens ont commencé par être étouffés. Les Israéliens ont des attentes, c'est beaucoup plus la libération des otages. Et jusque-là, Netanyahou n'a pas pu obtenir grand-chose aux Israéliens. Et de l'autre côté, on a vu la situation à Gaza qu'on a évoquée tout à l'heure. Tout ça en plus de ces déboires judiciaires et tout, je ne vends pas très cher la peau de Netanyahou. Peut-être qu'il va se maintenir au pouvoir, mais si quand je fais la lecture globale de ce tableau-là, je ne suis pas sûre de revoir Netanyahou revenir à la tête de l'État hébreu.
C'est sur le point de vue de notre consoeur à Cotonou au Bénin que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos points de vue dans ce monde en perpétuel mouvement. Merci également à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fatraori à la réalisation. Notez que le débat africain change de case horaire. Vous nous retrouverez à 8h10 et 22h10 temps universel le samedi, le dimanche. Aux mêmes horaires, vous aurez rendez-vous avec Afrique Mémoire d'un continent, présenté par Elgas et Penaï Traoré, de Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement.